OK, on continue dans notre série sur la théologie réformée systématique. Nous sommes rendus à la leçon 11. Nous allons voir ce soir la révélation générale de la partie 1. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une autre partie qu'on donnera la semaine prochaine. Donc, ce qu'on va regarder à l'intérieur de cette leçon-là, c'est trois choses. La révélation autour de l'homme, qui est la création. La révélation dans l'homme, que le Seigneur a donné en donnant une conscience à chaque homme. Et la troisième idée qu'on va regarder, c'est l'utilisation et l'efficacité de la révélation générale. Alors, on est en train d'étudier la révélation, bien entendu, la révélation générale, et il y a la révélation scripturaire ou plus spécifique. Alors, on est encore dans la révélation générale. L'apôtre Paul a résumé l'histoire des nations de la façon suivante. On lit dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 23. « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, de leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Comment devons-nous comprendre le début du verset 21? Qui dit que les hommes ont connu Dieu? La réponse est que Dieu s'est révélé lui-même aux nations. Les théologiens ont appelé ce fait la révélation générale. Elle consiste en deux principales idées. La première est le fait que Dieu s'est clairement manifesté dans sa création elle-même. Le cosmos, la nature, les créatures, et l'infiniment petit, comme les atomes et tout ce qui est invisible à l'œil. Et la deuxième est le fait que Dieu a donné la conscience à l'homme. Examinons en détail ces deux aspects de la révélation générale. On regarde d'abord la révélation autour de l'homme. Bien entendu, quand on parle de l'univers, de tout ce qui est autour de nous autres, c'est pas en nous, c'est vraiment autour. La création, Dieu. Dans le psaume 119, les versets 1 à 6, nous lisons « Au chef des chantres, psaume de David, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. » Alors vraiment, l'idée c'est vraiment la révélation générale que Dieu a fait en donnant la nature aux hommes, par laquelle on peut voir son existence et notre devoir de le louer et de lui rendre grâce. On va lire les versets 19 et 20 de Romains chapitre 1. « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. À l'intérieur même de ce texte-là, de Romains 1, versets 19 à 20, l'apôtre Paul enseigne les vérités suivantes sur la révélation générale. On va voir qu'il y en a sept. À l'intérieur de ce petit passage-là, il y a sept choses qu'on apprend. Alors, la première, c'est qu'elle révèle Dieu à un degré limité. L'expression « ce qu'on peut connaître de Dieu » parle d'une connaissance limitée. C'est-à-dire que cette connaissance n'en est pas une à salut. Parce qu'on voit dans Romains chapitre 1, versets 16 et 17, que Paul dit « car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Alors, quand on dit « révèle Dieu un degré limité », c'est qu'on regarde la nature, on regarde le ciel, on regarde c'est pas quelque chose qui devrait nous emmener à reconnaître l'existence de Dieu, à reconnaître qu'on lui doit adoration, qu'on lui doit action de grâce, mais c'est pas quelque chose, on devrait réagir, les hommes devraient réagir à ça, même avant leur salut, et ils ne le font pas. C'est ce qui les rend inexcusables. Donc, la deuxième chose que ça révèle Dieu d'une manière ouverte et claire. Le mot, dans le passage Romains 1, 19 à 20, le mot manifeste, ça veut dire rendu visible, rendu palpable, observable, évident, ce qui est à l'opposé du secret. La révélation générale n'exige pas d'initiation à des mystères, et ne nécessite ni technologie, ni télescope, ni microscope, même si ceux-ci peuvent en hausser la perception. C'est sûr que si vous regardez les choses avec un télescope, vous allez sur le mont Mégantien, vous regardez les choses, le télescope peut aider à percevoir, mais même sans ça, on peut s'asseoir l'été, se coucher sur le dos, dans l'herbe, et regarder, déjà on voit que ce que Dieu a créé, et c'est... Quand ça dit « révèle Dieu d'une manière claire, ouverte et claire », c'est ce que ça veut dire. La troisième, elle révèle Dieu selon sa volonté. Alors, il y a une intention divine là-dedans qui est claire, car elle vise à faire voir sa gloire pour appeler les hommes à la repentance et à l'adoration. Regardons par exemple dans Actes 14 et versets 15 à 17. En s'écriant, ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. » Donc, quelque part, Dieu, quand il nous a donné toute la révélation générale, la création, il veut... c'est selon sa volonté. C'est lui qui veut qu'à travers ça, on perçoive son existence, on perçoive notre besoin de l'adorer, on perçoive notre besoin de lui rendre grâce. Quatrième chose que ça l'amène, les enseignements, les vérités, par ce petit passage-là, elle révèle le Dieu invisible. Lorsque Dieu se manifeste au moyen de choses visibles, il rend perceptible aux yeux de l'âme ses perfections invisibles. Parce que ça dit, il nous montre les choses qui sont visibles, mais c'est évident que ça nous montre des choses invisibles sur la personne de Dieu. Alors, par exemple, dans le psaume 104, verset 2, ça dit: Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Le psalmiste compare la création de Dieu à un manteau. Le manteau du roi cache son corps, mais révèle sa majesté. Jean Calvin a dit: C'est le vêtement dans lequel celui qui se cache lui-même nous apparaît d'une manière visible. L'univers est ainsi comme le rideau du tabernacle, la tente sacrée, qui à la fois cachait la sainteté de Dieu et manifestait sa présence. Cinquième chose, cinquième secret, vérité, elle révèle la nature divine de Dieu. La révélation générale démontre non seulement l'existence de Dieu, mais aussi ses attributs, tels que sa puissance éternelle, sa grandeur, sa bonté, etc. Ce qui lui donne le droit à l'adoration, à la gratitude et à sa glorification. Sixième vérité enseignée par ce passage-là, elle révèle Dieu à travers l'histoire. L'expression qui est dans le texte qui dit « Depuis la création du monde » démontre que cette révélation n'a jamais cessé depuis le début du monde. La révélation générale est donc une fonction de la providence et non simplement l'activité initiale de la création. Dieu agit continuellement pour afficher ses attributs divins. Qu'on soit au 1er siècle, au 10e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, ces choses-là se manifestent continuellement. L'expression depuis la création du monde, ça veut dire que Dieu n'a jamais cessé de s'exprimer par ces moyens-là, exprimer sa puissance et plein d'autres attributs. Et septième vérité, c'est qu'elle révèle Dieu à travers sa création. Quand on lit dans l'expression, dans ses ouvrages, l'ouvrage de la création du cosmos, l'ouvrage des étoiles, des planètes, l'ouvrage de tout ce qui est la création de Dieu dans toutes ses facettes, sur la terre, sur la mer et partout. À l'intérieur de ces choses-là, si on observe les fleurs, si on observe les poissons, si on observe, peu importe ce qu'on observe autour de nous, si autour de nous, ça révèle un aspect ou un autre des attributs de Dieu et de son existence même, et du droit que Dieu a à la gratitude et à l'adoration. Deuxième chose qu'on va regarder concernant la révélation générale, c'est la révélation générale de la colère de Dieu dans un monde déchu. Romains 1, 18 et 19. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. La colère de Dieu est dynamiquement, effectivement opérante dans le monde des hommes, et c'est en tant que procédant du ciel, le trône de Dieu, qu'elle est ainsi active. Le jugement vient à travers les actes de Dieu dans l'histoire pour donner aux pécheurs des désirs corrompus et un état d'esprit rebelle comme un jugement pour l'avoir rejeté. Quand on regarde l'histoire des hommes, on voit qu'il y a énormément de choses que le Seigneur a permis, des guerres, des choses comme ça. Et le Seigneur enseigne aux hommes des choses le concernant par tous ces moyens-là. L'abandon providentiel par Dieu d'une société à la dégradation et à l'autodestruction est une révélation publique de sa colère. Quand on regarde ce qui se passe, les guerres un peu partout, Dieu démontre sa colère par ces moyens-là. Alors, Paul s'appuie sur le thème de l'Ancien Testament, de l'envoi par Dieu, de la cécité, de la dureté et de la folie comme un jugement spirituel sur les pécheurs. La doctrine de la providence enseigne que les jugements sont du domaine spirituel et du domaine terrestre. Les jugements sont des appels à la repentance. On va regarder deux passages dans le Nouveau Testament, Luc 13, versets 1 à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 hommes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous l'ai dit. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Qu'est-ce que le Seigneur est en train de leur dire? Que ces événements-là étaient des appels à la repentance. Et Matthieu, chapitre 24, versets 6 à 8, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce n'est pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Les désastres qu'on appelle naturels, les influences démoniaques et les guerres sont des trompettes de Dieu pour avertir l'humanité de la colère, celle actuelle et celle à venir, celle finale à venir, le grand jugement final. Deuxième point qu'on va regarder, c'est la révélation dans l'homme. Donc, l'autre était autour de l'homme, donc la création. Et celle-là, c'est ce que Dieu a mis à l'intérieur de chacun des hommes de manière à être capable de percevoir ce qui est bien et ce qui est mal. Alors, on va regarder ça. La révélation générale chez l'homme implique que nous sommes faits à l'image de Dieu et notre sens intérieur de l'obligation et de la responsabilité d'avoir des comptes à rendre à Dieu. Donc, on va regarder l'idée de la révélation générale parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Quand on lit, par exemple, dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, les versets 26 et 27 et le verset 31. « Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Et le verset 31, « Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le sixième jour. » Donc, à cause du fait qu'on est fait à l'image de Dieu, Dieu permet par la conscience qu'on fasse la différence entre le bien et le mal. Par sa chute, l'homme s'est lui-même privé des avantages qu'il avait reçus de Dieu. Cependant, des restes ou des traces de l'image de Dieu sont restés dans l'homme après la chute, de sorte que les êtres humains déchus restent supérieurs aux bêtes. Comme Dieu, nous sommes personnels et conscients de nous-mêmes. Bien que corrompus, les êtres humains restent des agents moraux qui sont responsables de devant Dieu de faire sa volonté. L'excellence humaine se manifeste dans les compétences de l'homme en agriculture, en architecture, en élevage, en musique, en technologie et en poésie et dans bien d'autres domaines encore. Par conséquent, nous rencontrons la révélation générale de Dieu non seulement dans la nature vierge et les vastes océans, mais aussi dans les rues des villes, les jardins, les usines, les bibliothèques, les cuisines, les bureaux et de nombreux autres aspects du monde façonné par la culture humaine. Autrement dit, la manière que Dieu nous a écrit, nous a créé, les talents qu'il nous a donnés, ça fait partie de la ressemblance à l'image de Dieu. Et c'est ce qui permet aux hommes de faire toutes ces choses-là, dans l'architecture, dans l'élevage. Et même dans les rues que les hommes font, plein de choses intelligentes. Et ça fait partie du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu. Maintenant, on va regarder la question de la révélation générale à travers la conscience humaine. Romains 1, 32 dit « Bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Et on voit aussi dans les versets 14 à 16 de Romains 2, « Quand les païens, qui n'ont point la loi, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. » Paul appelle le témoignage intérieur de la loi naturelle la conscience, la faculté de l'âme qui convainc une personne qu'elle a offensé ou qu'elle a plu à Dieu. Paul compare la conscience à un témoin devant un tribunal, car elle utilise la connaissance de l'esprit de la loi de Dieu pour témoigner si nous avons fait le bien ou le mal à ses yeux, avec le verdict et la sentence anticipée du juge. La conscience elle-même rend des jugements, parlant pour ainsi dire en tant que représentant de Dieu. On lit par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 29, « Je parle ici, non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi, en effet, ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? » La conscience est énergisée par un sens de la présence de Dieu, ce qui nécessite une bonne conscience pour s'approcher de Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 2, nous disons « Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. » Hébreux chapitre 10, verset 22. « Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Comme chrétien, ça nous parle parce qu'on est en train de dire que notre conscience nous accuse ou nous excuse, mais il dit que quand on s'approche de lui, on se devrait d'avoir la conscience purifiée. Donc ça implique la confession du péché. La conscience peut perdre de sa sensibilité par l'usage répété et entêté du péché. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 1 et 2, nous lisons « Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de l'effritrissure dans leur propre conscience. » Autrement dit, Dieu est en train de nous dire que si quelqu'un, malgré que sa conscience l'avertit de tel péché que c'est mal et qu'il continue, sa conscience va finir par s'affaiblir. C'est un peu comme quelqu'un qui s'en va bûcher dans le bois et qui a les mains, il n'a pas les mains pleines de cornes, mais à force de bûcher, tu vas former de la corne dans tes mains et tu vas perdre de la sensibilité à l'intérieur de ta main. Le péché fait la même chose. Si tu ne tiens pas compte de ce que ta conscience te dit de faire ou de ne pas faire, tu ne le fais pas, ta conscience perd de son efficacité. Et ça, c'est notre responsabilité. Troisième point, on va garder l'utilisation et l'efficacité de la révélation générale. Autrement dit, alors, on est en train de dire que la création ne peut pas nous emmener au salut. La conscience, elle nous avise du péché. Même les païens savent que voler, c'est pas bien. Même les païens savent les péchés. Mais on peut se poser la question, si ça ne l'amène pas au salut, la révélation, elle sert à quoi? C'est ça qu'on va regarder. Donc, en dépit de la révélation générale, les nations ne connaissent pas Dieu. Psaume 14, versets 1 à 3. « Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, autrement dit, on va regarder de quelle façon la doctrine de la révélation générale peut être utilisée par les chrétiens et comment elle peut être efficace. Donc, la connaissance universelle de la révélation générale prouve plusieurs vérités. Première vérité, Dieu existe et il a créé toute chose. On a Romains 1, verset 20 et 21, vu qu'on les a vus tantôt, on les reprendra pas. Mais c'est vraiment l'idée que Dieu, avec ces versets-là, nous montre qu'il existe et que c'est lui qui a créé toute chose. Donc, cela explique le phénomène universel de la religion à travers les cultures et les époques. Deuxième chose, c'est que la vérité, c'est que l'athéisme est une folie. Dans le psaume 14, verset 1, au chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. » Regardez aussi le livre des Proverbes, chapitre 1, les versets 7 et 22. « La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. » Et dans le verset 22, « Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plaindront-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? » Et autre idée, c'est que Dieu a une nature unique comme Dieu. La révélation générale révèle seulement l'existence de Dieu, révèle non seulement l'existence de Dieu, mais aussi ses attributs, qu'il est glorieux, le glorieux Créateur, éternel, tout-puissant, sage, le Seigneur est souverain de toutes choses et aussi de son autosuffisance, de sa présence, de sa bonté et de sa générosité. Il est alors digne de nos louanges et de notre adoration. Il révèle Dieu comme créateur et non Dieu comme rédempteur et comme sanctificateur. Quatrième vérité, l'idolâtrie est mauvaise et condamnable. Romains 1, verset 22-23, « Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » L'idolâtrie se manifeste de plusieurs façons dans nos sociétés modernes. La convoitise du matérialisme exacerbé, le culte des hommes aussi. On lit par exemple dans Actes 14, versets 12 à 15, « Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant, « Ô homme, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous, et vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à des choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Alors, si on voudrait développer l'idée de qu'est-ce que c'est l'idolâtrie dans nos sociétés modernes, il y aurait beaucoup à dire. Et il parle ici même du culte des hommes. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a comme une manie dans la société. On élève des hommes presque à des natures, comme s'il y avait des natures divines, comme on vient de le voir. La cinquième chose, Dieu tient l'homme responsable envers sa loi morale. Même les païens reconnaissent les principes moraux de base. Genèse, chapitre 20, versets 1 à 7. Abraham partit de là, de la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir, à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, feras-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même ne m'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Alors, on voit ici un roi, qui est un païen, qui reconnaît que c'était mal de coucher avec la femme d'un autre. Alors, ça vient... La sixième chose, les pécheurs sont sous la colère de Dieu et inexcusables. On l'a lu tout à l'heure dans Romains 1, verset 20 et verset 32, quand on dit « ils sont donc inexcusables » dans le verset 20. Et dans le verset 32, ça dit « bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. » Alors, la réponse universelle de l'humanité à la révélation générale. L'expression qui retient injustement la vérité captive du verset 18 implique les idées suivantes. Supprimer, restreindre volontairement et empêcher l'avancement. Autrement dit, les hommes, quand ils connaissent la vérité, ils vont chercher à la supprimer, chercher à la restreindre volontairement et chercher même à en empêcher qu'elle avance, qu'elle soit connue. La réponse des hommes a été qu'ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Calvin a dit, il substitue la nature pour Dieu, soit la créature au lieu du Créateur. C'est ce que l'on peut observer dans les religions primitives et dans le mouvement moderne du Nouvel Âge, soit une forme ou une autre d'adoration de la nature. Jérémie chapitre 10, versets 14 à 16. Tout homme devient stupide par sa science. Tout orfèvre est honteux de son image taillée, car ses idoles ne sont que mensonges. Il n'y a point en elles de souffle. Elles sont une chose de néant, une œuvre de tromperie. Elles périront quand viendra le châtiment. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car c'est lui qui a tout formé, et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Et dans Éphésiens, chapitre 4, versets 17 à 19, « Voici donc ce que je dis et que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur, ayant perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » L'article 1 de la Confession de foi de Westminster résume bien. Alors je le lis. Bien que la lumière naturelle, les œuvres créées et la providence témoignent de la bonté, de la sagesse et de la puissance de Dieu jusqu'à rendre les hommes inexcusables, elles ne suffisent pas cependant à donner cette connaissance de Dieu et sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi, à plusieurs reprises et de différentes manières, il a plu au Seigneur de se révéler lui-même et de proclamer sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit mieux gardée et propagée et que l'Église soit plus sûrement affirmée et encouragée en face de la corruption de la chair et de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur qu'elle soit toute mise par écrit, d'où le caractère indispensable de l'Écriture. Maintenant, Dieu a cessé de manifester sa volonté de cette manière à son peuple. La révélation générale reste un aspect crucial de la vie humaine. Pour les nations, elle jette les bases de notre sens de la réalité divine et de la responsabilité morale qui soutient chaque fragment de vérité et dénonce les fausses religions du monde. Donc, on va regarder les usages que nous, comme chrétiens, peuvent faire de la révélation générale. Si les incroyants ignorent généralement ou ne se repentent pas à l'appel de la révélation générale, alors Cela a-t-elle une utilité quelconque? Les Saintes Écritures indiquent qu'il y a une grande utilité pour l'Église, du moins de deux manières. La première, c'est de l'utiliser pour dans le mandat de l'Église de la mission. Paul utilise la révélation générale, dans le chapitre 1 du livre de Romains, comme moyen de montrer aux gens leur culpabilité et la nécessité de l'Évangile de Jésus-Christ et un appel à la repentance de leurs idoles. On va juste relire Acte 17, versets 23-29. Alors ici, on sait que c'est Paul qui était à Athènes. Il dit « Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous, car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, à de l'argent ou à de la pierre sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Donc, ce qu'on peut faire, c'est de l'utiliser un peu comme Paul a fait pour démontrer aux hommes que la création est là pour leur montrer que Dieu existe, que tu as des comptes à y rendre et que tu dois adoration et action de grâce. Donc, c'est le premier usage qu'on peut faire de la révélation générale, même si elle ne peut pas nécessairement nous amener à Christ comme tel. La deuxième utilité, c'est l'usage doxologique de l'Église, de la révélation générale. Autrement dit, tout ça, doxologique, ça veut dire la louange. Donc, les psaumes illustrent l'utilisation doxologique de la révélation générale. Dans le psaume 29, versets 3 et 4, nous disons « La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. » Et aussi deux autres passages dans les psaumes, psaume 95, versets 4 à 6. « Il tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer, est à lui, c'est lui qui l'a faite, la terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. » Et dernier passage de psaume 147, versets 4 à 5. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Trois applications. Première application, observons attentivement les ouvrages de Dieu. Les cieux et toutes ses merveilles, le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Émerveillons-nous devant la variété et les beautés de la nature, dans le règne minéral, dans le règne végétal et dans le règne animal, et aussi dans l'infiniment petit comme les atomes et les cellules. Rendons-lui grâce et adorons. Deuxième application, louons le Seigneur pour sa révélation par le moyen de la conscience qui montre aux hommes ce qui est bien et ce qui est mal. Faisons attention pour ne pas insensibiliser notre conscience par le péché. Et troisième application, utilisons ces outils pour notre mission d'évangélisation et dans notre devoir de doxologie et des louanges. Que notre grand, merveilleux et glorieux Seigneur soit loué, béni et adoré pour avoir donné la révélation générale aux hommes. Ployons le genou et adorons. Amen. Ah.